10h-11h, Speakuni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Speakuni, ça veut dire spiritualité, culture et harmonie. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Une heure pour déconstruire ensemble les préjugés. Et comme Yassine Ilmi est parti en vacances, c'est tout à fait naturellement que j'ai appelé Nadia El Bouga pour le remplacer, puisqu'elle est sexologue. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Ça fait plaisir de vous voir. J'espère que vous allez être à la hauteur pour assurer le remplacement.
Ah bah oui, forcément.
Forcément, des fois j'ai des questions bêtes.
Et puis en plus je suis en très belle compagnie, donc ça ne peut qu'être à la hauteur.
On présentera tout à l'heure nos invités. La thématique, c'est le leadership religieux au féminin, la question du ministère. On va commencer par deux mots que nous avons appris en préparant cette émission, Nadia. Alors le premier mot.
Alors le premier mot, c'est l'adjectif inclusif.
D'accord.
Voilà, donc...
Et le deuxième mot.
Et le deuxième mot, c'est la Hamida.
Très bien, nous aurons l'occasion de la définir avec nos invités. Notre première invitée est par téléphone, elle est en Espagne, Madame le curé Cristina Morera. Bienvenue.
Bonsoir.
Vous exercez votre ministère conjointement avec votre époux, qui est prêtre catholique lui aussi dans une communauté dite de base. Alors, c'est en espagnol, vous voulez la prononcer pour moi ?
C'est la Comunidad de Cristiano de Menovo.
Voilà, c'est beaucoup mieux pour comme ça. Voilà, vous êtes donc dans une ville en Espagne, dans la Galice.
En Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne.
Voilà, une église qui est pleinement inclusive, radicalement égalitaire, accueillante et capable de rendre le monde meilleur par sa présence, c'est bien ça ?
C'est du moins ce que nous espérons.
Très bien. Kaina Baloul, bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec plaisir, vous êtes islamologue, chroniqueuse radio, actrice du dialogue interreligieux. Oui. Vous êtes engagée sur les questions du ministère religieux féminin,
oui,
notamment, et le rôle de la femme dans les lieux de culte en islam. Et vous êtes fondatrice du groupe Parle-moi d'Islam et initiatrice d'un projet dont le nom s'appelle Fatima, dont le but est de créer une mosquée libérale.
Exactement.
Bienvenue. La rabbine Florian Nashinsky est avec nous.
Bonjour à tous.
Bienvenue, vous êtes la troisième femme de nationalité française à avoir été ordonnée rabbin.
Oui.
Je vois trois, mais ça dépend des articles en fait.
Oh, ça dépend comment on compte, il y a des Françaises qui ont été ordonnées qui ne sont pas forcément en France maintenant.
D'accord.
On est ensemble.
Voilà, vous êtes ordonnée rabbin, Pauline Beb et Séverine Soko, l'actrice. C'est ça.
Oui, puis il y a le rabbin Delphine Orvilleur aussi qui est en France en ce moment. Donc aujourd'hui, c'est nous trois, voilà. Le rabbin Pauline Beb, le rabbin Delphine Orvilleur. Et moi-même, mais il y a des étudiantes rabbins qui arrivent, donc ça
très
va bien aussi.
Et vous êtes aussi très engagée dans le dialogue interconfessionnel. Et puis le pasteur Emmanuel Sebold est avec nous, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous devenez pasteur à l'âge de
24 ans.
24 ans, vous êtes présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France.
Bravo.
Voilà, bienvenue. Alors, on va répondre aux questions des mots que nous avons appris. Le deuxième d'abord, Nadia, si vous voulez bien. En préparant cette émission.
Alors, la Hamida.
La Hamida. Qui veut répondre sur la Hamida ?
Alors, je vais me porter volontaire.
Allez-y.
Hamida, ça vient de la racine en hébreu, la Hamod, ça veut dire se tenir debout. Mmh. C'est le nom dont on appelle la prière la plus intime de la tradition juive. Et donc, Tfila, en hébreu, c'est quelque chose autour de palal, se juger soi-même, faire le point, et pélé, s'émerveiller, être tourné vers le monde, quelque chose de très sérieux, parce qu'on a de grandes responsabilités, quelque chose de plus léger, l'émerveillement vis-à-vis du monde, parce que c'est aussi la base de notre désir de vie et de partage. La Hamida, c'est cette prière qu'on fait donc trois fois par jour.
Bien. Il y a l'équivalent en islam, Kaina Baloul ?
Eh bien, en fait, le mot la Hamida me fait plus penser au mot Hamada ou Alhamd, qui existe dans la langue arabe, puisque la langue arabe et la langue hébraïques sont des langues sémitiques, hein, toutes les deux, donc on retrouve beaucoup de racines communes et certaines notions qui sont vraiment très proches. Donc Alhamd, en fait, c'est la première sourate du Coran commence par ce mot, hein, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et donc c'est je rends grâce à Dieu. Et c'est aussi une attitude de. C'est le fait d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a.
Pasteur Emmanuel Sebold, est-ce qu'il y a l'équivalent chez les chrétiens ?
La prière, je pense, est un lieu d'être, d'existence universelle dans toutes les religions. Et qu'elle soit debout, assise, à genoux, voilà, voilà, la prière, la manière dont vous le décrivez, ça me fait penser au psaume, où effectivement, le psaume de l'homme qui prie et de la femme qui prie. Ouais.
Christina Moreira, chez les catholiques, est-ce que vous avez l'équivalent?
Je vais rallier toutes mes consoeurs. En fait, l'équivalent, c'est ce mot de Jésus, « Lève-toi et marche ». Tenir debout, c'était le but de Jésus pour toute personne.
Alors Nadia, le deuxième mot que nous avons appris en préparant cette émission.
Alors le deuxième mot est un adjectif, c'est l'adjectif inclusif.
Alors, qui veut se lancer pour une définition?
Qu'est-ce que ça évoque chez chacune d'entre vous?
Ça évoque rien, Nadia.
Si, non, ça évoque plein de choses.
Plein de choses, évidemment. La première chose, c'est que ça nous renvoie surtout à tout ce que... tout ce qu'on voit comme exclusion aujourd'hui dans nos religions respectives. Dans l'islam, par exemple, je vais parler de l'islam, hein. La femme, par exemple, la place de la femme dans la mosquée, la place de la femme dans le ministère religieux, et puis on a aussi la place des personnes, des personnes de la communauté LGBTQ. Ce sont toutes des questions qui se posent à nos communautés religieuses et qui doivent se poser aussi à la théologie.
Donc, ce qui veut dire, même si on en revient aux mots, c'est qu'à de le dire, oui. Mais mot inclusif.
Donc, c'est l'inverse de l'exclusif.
De l'exclusion.
La question étant que chacun puisse trouver, que chacun et chacune. C'est le cas de le dire, hein, puisqu'on parle de langage inclusif, d'écriture inclusive, où les femmes sont représentées et peuvent s'identifier aussi au message qu'on a donné. Simplement d'avoir des lieux où chacun est accueilli à sa façon et dans sa liberté d'être. Par exemple, à la synagogue, on n'est pas obligé d'être juif pour venir à la synagogue, mais je sais que c'est pareil également dans les temples, dans les mosquées, dans les églises. Et chacun est le bienvenu, mais chacun a sa place dans le respect de ses options personnelles et de son identité.
Pasteur Emmanuel Sebot.
Oui, on parle... Oui,
sur la définition du mot. Hein.
Oui, sur la définition du mot, c'est tellement important de réfléchir à toutes les personnes qui sont exclues pour tout un tas de raisons. Hein. On peut effectivement penser aux membres des communautés lesbiennes, gays, etc. Mais aussi à toutes les personnes qui sont exclues pour des raisons d'handicap, qui ont du mal à accéder à nos lieux de culte, qui n'entendent pas donc la prière ou qui ne voient pas. Enfin voilà. Et donc, toute cette question de l'inclusivité des lieux de culte, elle est très importante et malheureusement, je dirais, être obligé de dire culte inclusif, ça exclut quelque part. Il y a aussi un revers de la médaille forcément, un culte est ouvert à tous. Ou alors, c'est une secte, si c'est pas ouvert à tous. Un lieu de culte est ouvert à tous.
Christina Moreira, sur la définition du mot.
La définition du mot que nous avons beaucoup travaillé dans mon association de femmes prêtres, puisque nous sommes directement concernés par l'exclusion au niveau de l'Église en tant que femme et que prêtre, veut dire pour nous accueil inconditionnel de la personne telle qu'elle est. C'est voir l'autre comme un autre moi-même. Et c'est différent de la tolérance ou de l'acceptation, c'est inclure l'amour dans cet accueil et tenir l'autre pour un autre moi-même que je dois aimer comme moi-même.
Alors, vous venez de le dire, hein, il est toujours impossible à des femmes de devenir prêtres dans l'Église catholique. Comment est-ce que la question du rôle de la femme dans l'Église se pose-t-elle aujourd'hui? Et pourtant, avec toutes les histoires qui se passent aujourd'hui, les sondages disent que l'ordination des femmes serait peut-être une solution et plébiscitée.
Eh bien, écoutez, tout dépend du lieu où on se trouve. Aujourd'hui même, nous avions la nouvelle ces femmes qui viennent de sortir en groupe de ce magazine du Saint-Siège avec Lucetta Scarafia à leur tête, etc. Et parce qu'elles ont été critiquées par rapport à leur point de vue sur les péchés de l'Église, c'est-à-dire les péchés des hommes. Et donc, c'est de pleine actualité de dire que le rôle des femmes dans l'Église catholique, tout dépend du lieu où on se trouve. Donc, pour le peuple de Dieu, comme vous venez de dire, c'est une évidence. Sans les femmes, l'humanité n'est pas complète. Les enfants
c'est
de
un
Dieu
sondage d'un magazine, un magazine catholique, hein, qui me disait qu'effectivement, c'était une piste que les gens envisageaient.
On nous donne les mêmes chiffres aux États-Unis, etc. Donc, si nous voulons réunir autour de la table du Seigneur tous ces enfants, eh bien, il va falloir y mettre aussi les femmes. C'est ce qu'on pense quand on pense au ras des pâquerettes avec le cœur. Mais dès qu'on pense pouvoir, dès qu'on pense autorité, dès qu'on pense leadership et plein d'autres choses, eh bien, qui nous éloignent de Dieu, en fait. On ne veut plus des femmes, ce qui est assez curieux.
Nadia El Bouga.
Alors, justement, Christina Moreira, le pape considère que dans l'histoire de l'Église, hein, les femmes ont plus marqué cette histoire-là que les hommes. Et pourtant, sa décision de ne pas ordonner les femmes est rédhibitoire. Hein. Pour lui, ordonner les femmes au ministère presbytéral, c'est pour l'instant quelque chose qui n'est pas possible. Pourquoi, selon vous ?
D'emblée, je dirais, parce qu'il y a une misogynie non avouée, non reconnue et niée. Et dans les dans ce qu'on peut prouver, une anthropologie totalement déficiente, qui parle d'êtres humains, on va dire, du tronc commun masculin, et puis d'êtres humains féminins, qui seraient un peu les compléments de ces êtres mâles, et qui seraient d'une autre espèce, en fait.
Alors, pasteur Emmanuel Sebold, il y a 100 ans exactement, deux femmes étaient nommées pour la première fois pasteur. C'était en 1918. En Suisse, c'était une rareté et aujourd'hui, c'est presque courant.
C'est complètement courant dans les églises protestantes de tradition luthérienne et réformée comme la mienne. Il a fallu attendre en France, donc on va voir tout de suite la différence entre la Suisse et la France. Dans mon église en France, il a fallu attendre 1966. C'est quand même très tard.
C'était au moins 50 ans.
Il y a plus de 50 ans, mais c'était très tard par rapport aux autres églises luthériennes et réformées d'Europe ou des États-Unis.
Alors moi, j'aimerais savoir le regard que les hommes portent sur vous, mesdames les pasteurs.
Je crois que ça se passe très bien.
Est-ce que c'est en voie de se banaliser, en
Alors,
fait ?
Alors, il y a plusieurs réalités. Il y a, à l'intérieur de mon église, c'est complètement banal. Quand j'étais enfant, j'ai grandi, j'avais autour de moi des jeunes femmes pasteurs. Et donc, pour moi, il n'y avait aucune difficulté à me dire, déjà, dès l'enfance, je serai pasteur. J'avais des modèles déjà de femmes pasteurs autour de moi.
C'est-à-dire que le ministère pastoral féminin est acquis.
C'est
au
complètement
sein de la communauté
acquis.
Protestante.
Mais dans votre communauté, c'est ça qu'il faut dire. Et vous appartenez à quelle branche ?
Luthérienne et réformée. Voilà. L'Église protestante unie, c'est les églises luthériennes et réformées en France. Voilà. Donc, effectivement, c'est acquis dans cette église-là. C'est pas acquis partout, c'est pas acquis dans toutes les églises protestantes autres, où il y a des églises évangéliques qui ont des femmes pasteurs, d'autres qui n'en ont pas, etc. Voilà.
J'aimerais signaler qu'il existe une série télé qui s'appelle Ma femme est pasteur.
Oui, en Suisse, oui.
C'est très drôle.
C'est très, très drôle. Oui, Caroline Costa, elle fait ça très, très bien. Oui, tout à fait. En Suisse. Alors, aujourd'hui, dans mon église, c'est 36% de femmes pasteurs. Chaque année, on gagne 2%. Voilà, 2-3% chaque année.
C'est pas encore la parité, mais...
Mais ça y est, ça ressemble. On y sera bientôt.
En tout cas, on en parle aujourd'hui jusqu'à 11h, 1h. Alors, vous voyez, pour le coup, pour déconstruire ensemble les préjugés, on parle du leadership religieux au féminin, la question du ministère.
Speak Uni revient dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, Speak Uni avec Philippe Robichon.
Speak Uni, spiritualité, culture et harmonie. Et ce matin jusqu'à 11h, nous parlons du leadership religieux au féminin, la question du ministère, une thématique qui nous m'a été inspirée par Nadia El Bouga, qui trouve chaque semaine qu'il y a beaucoup trop d'hommes sur ce plateau.
Oui.
Mais vous avez vu, Nadia, la difficulté de réunir autant de femmes à la même heure, au même moment. Vous avez vu que c'est pas simple quand même, hein.
C'est pas
ça. Ça demande. C'est juste un mois de boulot.
Des obstacles.
Voilà. Mais non, mais c'est
externe. Mais nous avons bravé les tempêtes.
Parce que vous êtes très peu à communiquer aussi. Il faut dire que les hommes communiquent plus et c'est beaucoup plus facile. Alors autour de nous sur ce plateau, nous avons donc Christina Moreira qui est avec nous en direct depuis l'Espagne, Madame le curé, je devrais dire, Kaina Baloul qui est avec nous, islamologue et très engagée dans le dialogue interreligieux et qui est initiatrice d'un projet qui s'appelle Fatima, dont le but possibilité de créer une mosquée libérale, dont on parlera ce matin. La rabbine Floriane Chanskit avec nous également, et la pasteur Emmanuel Sebolt. Alors, j'ai vu que vous souhaitiez intervenir tout à l'heure avant la pause, et c'est à vous. Donc, le temps a bien changé quand même depuis l'ordination, enfin, je ne sais pas comment on dit, chez les juifs, de la rabbine Pauline Beb.
Oui, tout à fait, ça fait déjà un certain temps.
Ça fait plus de 20 ans.
Tout à fait, on en discutait encore en réunion de rabbins lundi. Ce qui est important, ce qui nous semble important, c'est l'exposition. Parce que dans la tradition juive, on n'en est pas encore, en tout cas en France, contrairement aux États-Unis, bien sûr, par exemple, à considérer que le rabbinat pour une femme est normal. Et donc, nous sommes d'une certaine façon la génération d'après dans cette matière-là.
D'être pas pionnier, mais celle qui a essuyé les plâtres.
Moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui étaient contre les femmes rabbins et qui ont eu l'occasion de tester, de voir, de changer d'avis et de devenir, en fait, très souvent, c'est intéressant à remarquer, nos plus grands partisans.
Mais alors, aujourd'hui, c'est gagné, enfin, je veux dire, c'est gagné ou vous en êtes où, finalement ?
Mais justement, où vous en êtes ? Et moi, j'ai découvert juste une chose à préciser. J'ai découvert, à ma grande surprise, que le mouvement libéral juif, en réalité, est majoritaire dans le monde. C'est-à-dire que c'est en France qu'il y a encore des difficultés ou quelques réticences. Mais dans le monde, vous êtes majoritaire par rapport, en fait, aux orthodoxes et ultra-orthodoxes.
Et c'est très important de le préciser parce que, effectivement, mon statut de rabbin est reconnu par l'écrasante majorité des juifs du monde. Et ce n'est pas aussi clair que ça en France, pour tout un tas de raisons sociologiques. Le féminisme en France, c'est pas vraiment non plus. On n'est pas vraiment à la pointe. D'un côté, il faut le dire. D'autre part, le judaïsme français, pour pouvoir évoluer, en fait, il faut avoir une bonne connaissance des sources et une grande confiance en soi. Et en même temps, si tu l'as, ça marche deux fois plus, parce que tu as deux fois plus de personnes, puisque tu as toutes les femmes qui se mettent également à prendre part à la transmission. Mais si tu n'as pas cette confiance, et la chaîne de transmission du judaïsme a été gravement perturbée par la Shoah, et donc il y a plein de juifs qui sont déjà qui ont disparu, qui ont été assassinés, d'autres qui se sont totalement écartés du judaïsme. Et donc, pour pouvoir prendre ce tournant, c'est particulièrement difficile. Mais paradoxalement, c'est parce qu'on en a le plus besoin. Maintenant, comme je le disais, on a des étudiantes rabbins qui arrivent. Donc, ça va renforcer un petit peu les rangs, soutenus aussi par beaucoup d'hommes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau d'avancer ensemble.
Kaina Baloul, donc vous portez un projet qui s'appelle Fatima.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet ?
Alors, notre projet est un projet de mosquée libérale qui a pour objet d'offrir un lieu de prière, donc une mosquée, où les femmes et les hommes pourront prier ensemble, dans la même salle, au même niveau. Parce que il faut préciser que, traditionnellement, on nous dit toujours que il y a eu des cas, à l'époque du prophète même, où les hommes et les femmes priaient dans la même salle, sauf que les femmes étaient derrière les hommes. Alors nous, symboliquement, nous estimons qu'il faut avancer sur cette question-là et qu'il faut mettre tout le monde sur la même ligne. Parce que symboliquement, une religion doit renvoyer des signes pour, voilà, qui sont très forts pour rééquilibrer certaines choses.
Alors, quand vous dites ensemble, c'est, comment vous imaginez l'organisation de la mosquée ?
Alors, dans la salle de prière, on a pris en compte une certaine gêne par rapport à la prière, à certaines postures de la prière musulmane. Vous savez que dans la prière musulmane, on se prosterne, on s'incline, et on a fait un petit sondage autour de nous, et beaucoup de gens ont exprimé une certaine gêne à prier devant ou derrière une personne du sexe opposé. Donc on s'est dit, on va prendre en compte cette gêne et on va essayer d'organiser l'espace de telle façon que les hommes prient d'un côté et les femmes de l'autre. Mais c'est vraiment pour cette raison-là, mais tout le monde sur la même ligne, donc à égalité. Et l'autre point qui est important, c'est de permettre aux femmes d'être imams. C'est-à-dire que dans notre projet, il y aura le prêche et la prière du vendredi sera tenue une semaine par un homme, un imam homme, et une autre semaine par une imam femme.
Alors, quel argument religieux vous basez justement pour imaginer cette possibilité pour une femme d'être imam ?
Les arguments religieux.
Parce que vous savez que c'est là-dessus, c'est là-dessus que vous êtes que vous êtes remise en question.
Et je suis attendue aussi.
Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut vraiment se remettre en tête, c'est que la lecture des textes fondateurs, du texte coranique notamment, a toujours été faite depuis des siècles et des siècles par des hommes. Donc, toutes les interprétations sont des interprétations masculines et patriarcales. Le Coran lui-même n'interdit en aucun cas à ce qu'une femme puisse être imam. C'est-à-dire que le texte coranique n'aborde d'ailleurs même pas la question de l'imamat, que ce soit l'imamat masculin ou féminin. Parce que le Coran, enfin tout le monde le sait, hein, les savants religieux le disent.
Non, alors ça, le tout le monde le sait, non. Oui. Ça, je refuse, le tout le monde le sait.
Je vais l'expliquer alors.
Voilà.
Le texte coranique...
Ça veut rien dire, parce qu'en général, quand on dit tout le monde le sait, ça veut dire que personne le sait. Donc, allez-y.
Alors, je l'explique. Dans le texte coranique, on sait qu'il y a des questions qui ont été laissées ouvertes. C'est-à-dire qu'elles sont laissées au jugement des personnes et des pratiquants qui vivent à une époque donnée. Donc, voilà, la question de l'imamat n'est pas du tout abordée.
Ceci dit, il y a des oulémas qui réfléchissent, et des savants, et c'est contraire à l'avis de tous les savants depuis tous ces siècles.
Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison.
Non, Nadia, c'était pas un contraire. Je dis que jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est contraire à l'avis de tous les savants, au consensus de tous les savants, et c'est unanime.
Parce que, pour l'instant...
En l'état présent, en l'état... Voilà,
En l'état des choses, comme il a été dit, les interprétations n'ont été faites qu'exclusivement par des hommes, avec un contexte qui est celui d'un système patriarcal, d'ailleurs, qui préexistait aux religions monothéistes. Exactement. Donc, il est intéressant, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est dans cette démarche d'inviter, cette démarche inclusive d'inviter des femmes... pour parler de leur ministère au sein des différentes communautés religieuses, parce que justement, les femmes jusqu'à maintenant n'ont pas eu la possibilité de pouvoir travailler sur cette herméneutique. Donc c'est là où c'est intéressant, parce que c'est pas parce que le consensus des savants dit que les savants ont raison. Ah. Il y a des textes.
Attendez. Moi, je ne sais pas ce que je vous dis.
Je vous dis que depuis des siècles. Bien, vous faites avocat du diable, mais je réponds.
Voilà.
Je dis juste que ce n'est pas parce que le consensus des savants dit que c'est une vérité absolue. Il y a aussi un travail, et il y a certains savants qui réfléchissent sur cette question-là, justement, relire les textes à la lumière aussi de la société actuelle.
Kaina Baloul.
Justement, je voudrais repréciser une chose. Je suis en train d'écrire un article en ce moment sur le sujet. Alors, on dit le consensus des savants sur cette question de l'imamat de la femme a été clair et il l'interdit. Ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de consensus des savants sur la question de l'imamat de la femme.
C'est quoi ? Je suis très impatient de lire votre article.
Oui, je vais faire en sorte de l'écrire très rapidement, parce qu'il y a un vrai besoin, et beaucoup de gens me le demandent et me posent beaucoup de questions. Donc sur cette question, c'est ce qu'on appelle en arabe el-ijma', qui est la troisième source de la jurisprudence ou de la loi religieuse musulmane. Déjà, rien que sur la définition de ce qu'est le consensus ou l'ijma', il y a une diversité d'avis. Est-ce que c'est le consensus des savants d'une époque donnée, de toutes les époques, de tous les musulmans ou juste des savants? Donc juste
ou la reprise d'avis de savants.
Ou la reprise d'avis de savants. Juste sur cette question-là, il y a énormément de choses à dire. Et en ce qui concerne l'imamat de la femme, il faut savoir qu'il y a eu des avis religieux, notamment de savants plutôt chaféites, qui ont donné un avis favorable sur l'imamat de la femme. Et il y a eu aussi le grand maître Ibn Arabi, lui, qui dit la femme peut prier, peut guider la prière, il n'y a aucun obstacle à ça, et c'est complètement valide théologiquement, et qu'elle peut le faire devant une assemblée d'hommes et de femmes.
Alors, et qu'est-ce qui différencie encore votre projet, Fatima ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Le projet Fatima...
Donc le fait que tout le monde prie au même niveau, il y a la femme qui donc peut diriger la prière, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Oui, mais et je dirais que le principal, hein, c'est surtout le fait de proposer une nouvelle lecture des textes. Parce que c'est vraiment à partir de ça aussi que découlera le fait de dire que voilà, une femme peut être imam, ou que les hommes et les femmes peuvent prier dans la même salle, et qu'on peut disposer les choses d'une autre manière qui soit plus adéquate à notre époque. Donc vraiment, un des points importants à signaler, et qui est vraiment fondamental pour ce projet, c'est d'avoir une lecture et une approche différente de l'interprétation des textes du Coran et de la Sunna aussi, de la tradition prophétique. Et je pense qu'il faut remettre énormément de lectures, une approche historico-critique. Je pense que c'est très très important, notamment en ce qui concerne la Sunna, la tradition prophétique, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment à travers cette la Sunna qu'on colporte beaucoup de choses qui sont inexactes.
Alors Rabine Florianczynski, à quand remonte votre vocation ? Parce que vous vous souvenez, quel a été le déclic finalement, où vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire.
Oui, tout à fait. Il y a le moment où j'étais prête et c'était naturel. Et il y a le moment où je me suis rendu compte que j'étais prête et que c'était naturel.
D'accord.
Et en fait, c'est assez intéressant parce que quand cette idée folle a germé dans ma tête, je me suis dit, voilà, je fais du droit, c'est bien, mais en même temps, je suis très impliquée dans différentes synagogues. Je transmets un judaïsme familial qui compte énormément pour moi. Et en fait, j'aimerais que ce soit central dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai réalisé que c'était possible. Et là, je me suis aperçue que j'avais toujours fait ça, en fait, à travers le scoutisme, à travers le fait que j'étais enseignante au Talmud Torah, etc. Et donc, c'était très intéressant, ce basculement. Il a eu lieu parce que j'ai décidé de faire face à ce qu'il y avait de plus, ce qui me semblait, il me semble encore le plus délicat, c'est-à-dire d'être avec les gens dans toutes les étapes de la vie, dans toutes les épreuves, dans tous les moments cruciaux. Et j'ai pu le faire aussi parce que j'ai décidé que le fait que les gens m'acceptent ou non en tant que femme était leur décision, et que donc il était de mon entière responsabilité de commencer le chemin, d'être prête, en espérant que le monde de l'autre côté... Alors, je savais qu'il y avait des femmes rabbins dans le monde, mais en France, pas. Enfin, il y avait le rabbin Pauline Bebb qui était là, mais c'était vraiment le...
C'était pas la voie la plus facile, on va dire.
C'était très, très improbable. Mais c'était important, et c'était important aussi, peut-être pour rejoindre ce que disait Kaina Bahloul en tant qu'imam. En fait, il y a certaines idées qui se diffusent, et il y en a d'autres qu'on sait être justes et dont j'étais l'héritière, et en fait sur lesquelles je me suis réellement interrogée. Il y a des rabbins qui m'ont dit à propos d'histoires qu'on racontait dans ma famille, mais arrête d'inventer. J'avais 16 ans, je me suis dit, mais alors attends, c'est pas vrai ce qu'on m'a enseigné. Bon, maintenant je sais que c'est dans le Talmud, et je sais que ce qui m'a été enseigné est justifié et légitime en tant que courant fondamental dans la tradition juive.
Le leadership religieux au féminin, on en parle ce matin dans Speak Uni jusqu'à 11h.
Speak Uni revient dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, Speak Uni avec Philippe Robichon.
On parle du leadership religieux féminin aujourd'hui avec des femmes sur ce plateau. Et une femme au téléphone, c'est Cristina Moreira, vous êtes en Espagne et vous êtes curé. On parlera de vous dans un instant. Kaina Bahloul est avec nous, islamologue et initiatrice, fondatrice d'un projet qui s'appelle Fatima. La rabbine Florianczynski est avec nous également, et la pasteur Emmanuel Sebolt. Nadia El Bouga remplace Yassine Ilmi aujourd'hui. Cristina Moreira, vous, votre vocation, à quel moment vous vous êtes dit je vais devenir curé? Est-ce que c'est précis chez vous?
Non, pas du tout. Étant donné justement que c'était absolument impossible du point de vue de la loi canonique, qui est la loi qui est établie dans l'Église catholique, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Du point de vue du magistère, c'est également la même chose. Le magistère, c'est, on va dire, tous les enseignements des différents papes. Et donc, je tiens ma vocation d'une rencontre personnelle avec le Christ, d'une spiritualité, en
D'accord.
fait, qui s'est développée chez moi.
Ouais.
Et qui, peu à peu, m'a fait comprendre que la seule manière de réaliser dans la pratique, dans la matière, dans l'ici et le maintenant, dans l'histoire, cet appel que j'avais perçu de façon, on va dire, personnelle, et de mettre tout cela à la disposition de la communauté était de devenir prêtre. Alors, à un moment, je me suis dit, mais pour faire tout ça, tout ce que je me sens appelée à faire, il n'y a pas d'autre solution que d'être prêtre dans ma tradition. Voilà.
Et dans l'exercice donc de vos fonctions, qu'est-ce que vous faites? Vous pratiquez la confession, par exemple?
Je pratique tous les sacrements que peut pratiquer un prêtre catholique. Et d'ailleurs, j'ai été très intéressée parce que je pense que c'est Nadia qui parlait de mettre tout le monde sur la même ligne, c'est bien ça?
Non, c'est Kaina Badiou.
C'était Kaina, excusez-moi. Et donc, justement, avec mon mari, nous, dans notre communauté, nous prêchons à tour de rôle. Et j'ai aimé entendre le projet donc, de cette mosquée où les hommes et les femmes allaient prêcher à tour de rôle. Donc je prêche et je suis disponible pour tous les sacrements.
Emmanuel Sebold, Madame la Pasteur, vous, comment est née votre vocation?
J'étais tout à fait enfant, puisque au CP, au CE1, j'ai dit à mon instituteur que je serais pasteur. Il était très inquiet.
C'est très rare, hein, c'est les gens qui à cet âge-là, font le métier dont ils rêvaient.
Oui. Et donc, il était très, très inquiet. À la sortie de l'école, il dit à ma mère, il faut que je vous parle. Emmanuel a dit qu'elle voulait être pasteur. Il était très, très inquiet. Ma mère a dit, oui, c'est tout à fait possible.
Ah bon, elle n'a pas dit, ça lui passera avant que ça me reprenne.
Non, voilà, non, elle n'a pas dit ça.
Ça a été facile pour vous?
Oui, ça a été facile parce que j'étais dans une église qui le permettait, parce que j'avais autour de moi des exemples déjà et que j'ai gardé ma vocation jusqu'à maintenant.
C'est facile de s'identifier, finalement. Oui. Kaina Balloul, devenir imam pour vous, ça vient d'où?
Alors, en tant que musulmane, ce n'est pas du tout naturel de se dire « Ah tiens, à l'âge de 10 ans ou 12 ans, je vais devenir imam. » Je n'ai pas eu de modèle quand j'étais jeune. Les imams n'étaient que des hommes. Et alors, ça vient d'où? Ça vient de modèles plus récents. Alors, aux États-Unis, par exemple, en 2005, il y a une femme qui s'appelle Amina Wadud, qui a fait de grandes études en islamologie, à El Azhar, par exemple, en Égypte, qui a guidé la première prière mixte en tant que femme. Et donc cette femme a été vraiment elle a eu le rôle d'éclaireur et beaucoup de femmes l'ont suivi après. Donc aux États-Unis, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes imams. Il y a eu par la suite Sherin Khankan au Danemark, en Allemagne et un peu partout en Europe. Et en voyant ça, je me suis dit, mais c'est génial! C'est génial! Enfin, les femmes peuvent prendre leur place au sein de la mosquée. Et parce que je me suis toujours sentie exclue de ce domaine. J'ai ma voix, je me suis jamais sentie libre, en fait, d'exprimer mon avis. Ou j'ai jamais eu de voix, en fait.
Dans la mosquée, vous voulez dire?
Dans la mosquée.
Dans l'espace de la mosquée. Voilà.
Et en voyant ces femmes-là, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir m'exprimer en tant que femme.
Pourtant, dans l'histoire arabo-perso-musulmane, il y a, on ne compte pas les femmes érudites, poétesses, savantes, des maîtres spirituels que l'on connaît au sein de la communauté musulmane qui ont eu comme guide spirituel des femmes. Comment expliquer le fait qu'elles soient invisibilisées?
Pour moi, il y a clairement une régression. Et du point de vue donc du vécu sociologique et anthropologique, mais aussi un vrai déclin, le déclin de la pensée musulmane qu'on vit depuis le 19e, 20e siècle, aussi y est pour beaucoup. Alors, Nadia, vous disiez qu'il y avait des femmes savantes, il y avait même des femmes imams, en réalité, à l'époque du prophète. Alors, il y a un hadith, vous savez, ce sont ces paroles du prophète. On retrouve dans plusieurs recueils de hadith, et notamment dans le Mousnad de Ibn Hanbal, hein, que tout le monde connaît, par exemple.
Non, tout le monde ne connaît pas.
Normalement, enfin...
Que tout le monde devrait connaître.
Voilà. Le Mousnad de Ibn Hanbal. Donc, Ibn Hanbal, qui est un des initiateurs des... l'initiateur d'une des quatre écoles juridiques musulmanes, donc l'école Hanbalite. Alors, dans son recueil de hadiths, on retrouve ces hadiths qui parlent de cette femme donc, qui s'appelle Umm Waraqa et qui aurait été autorisée par le prophète lui-même de guider la prière parce qu'elle apprenait, elle avait appris le Coran par cœur elle faisait partie des compagnons du prophète qui avaient collecté le Coran, en fait, et qui, après lui, ont contribué, en fait, à le collecter dans un livre.
Floriane Chinsky, à l'époque talmudique, il y avait justement des femmes qui discutaient d'égal à égal avec les hommes. Comment se fait-ce que maintenant, c'est quelque chose qui soit difficilement concevable par un pan de la communauté juive ?
Il y a des femmes érudites, effectivement, qui apparaissent dans le Talmud comme de grands personnages et qui enseignent parfois des choses à des hommes. Par exemple, Bruria et Rabbi Meir, on en trouve ces exemples. D'où viennent les difficultés actuelles ? Je ne sais pas. Moi, mon impression, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'il y a une régression. Alors, l'époque du Talmud, elle n'est pas si joyeuse que ça, parce qu'on est quand même sous influence de la pensée romaine. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus favorable à l'épanouissement des femmes. Le Moyen-Âge non plus. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment en ce moment qu'on a une chance de remettre à jour les sources. À l'époque du Talmud, vous avez entièrement raison. On dit toutes les femmes, tout le monde peut monter à la Torah, y compris les femmes. Et il y a un petit ajout qui dit « Mais on n'appellera pas les femmes à monter à la Torah en raison de la dignité communautaire. » Donc on voit bien qu'il y a une acceptation de base, une réalité de perception, de demeure, qui est que ça ne semble pas acceptable et que donc c'est mis en recul. Et on pourrait donner pas mal d'exemples à différentes étapes de l'histoire, de telle sorte qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on a une approche critique des sources, ça permet de différencier dans les sources qu'est-ce qui émane d'influences extérieures, qu'est-ce qui émane de quel contexte, et de pouvoir revenir à la base. En l'occurrence ici, nous considérons avec joie que c'est l'honneur d'une communauté, évidemment, de faire entièrement place à la partie féminine de ses fidèles.
Alors justement, qu'est-ce que vous faites chacune, et là je m'adresse à vous Emmanuel Sebot, qu'est-ce que vous faites pour que les petites filles et même les petits garçons puissent avoir une représentativité des femmes et se dire que oui, les femmes à l'égal des hommes peuvent également être empreintes de spiritualité et guidées spirituellement?
Je dirais que dans le protestantisme, tel que je le vis dans mon église, il faut préciser, toujours, le protestantisme est très divers, on vit vraiment hommes et femmes sans se poser la question. On peut tous avoir la même place. Personne n'est interdit de prendre telle ou telle fonction parce qu'il serait une femme ou un homme, d'ailleurs. Aujourd'hui, nos conseils d'église locale, de paroisse, de communauté, sont largement paritaires et depuis longtemps. Donc c'est quelque chose qui est absolument évident pour nous, et au niveau mondial, dans nos assemblées, dans les assemblées des églises luthériennes et réformées, la parité est obligatoire. Dans les assemblées mondiales, des rassemblements d'églises, la parité est obligatoire.
D'accord.
Chez les catholiques, oui, on n'a pas entendu la voix de Christiane Moreira.
Qu'est-ce qui explique, Madame Moreira, il me semble qu'à partir du Concile Vatican II, il y a eu un virage concernant la représentation que les femmes pouvaient avoir ou ne pas avoir au sein de la communauté catholique?
Franchement, pour vous dire la vérité, j'ai pas vraiment eu l'impression que Vatican II ait marqué un véritable tournant pour les femmes. Vatican
oui, justement, II c'est ce que je dis.
Un tournant remarquable pour beaucoup de choses, quoique, parce qu'aujourd'hui nous vivons les retombées de ce quoique. Et qui prouve bien que ce concile a été incomplet, inachevé, et qu'on aurait souhaité peut-être avoir très vite un Vatican III. Mais pour les femmes, les choses n'ont pas changé, parce que avec Jean-Paul II, qui a eu un pontificat assez long, les femmes ont été considérées comme inappropriées ou on va dire non conforme au projet de représenter le Christ dans l'Assemblée. Donc on a créé toute une théologie pour dire que les femmes n'avaient pas leur place dans la célébration du culte et à la place réservée à la personne qui célèbre l'Eucharistie, car c'est là tout le nœud gordien, en fait. Donc, après les écrits de Jean-Paul II, Ordinatio Sacerdotalis, Inter in Signores, etc., où il a essayé d'asseoir son infaillibilité sur ce principe-là, en faisant croire que c'est un dogme, que l'exclusion des femmes de la prêtrise est un dogme, on s'attend maintenant à très peu de tournants. C'est bien pour ça que j'ai pris la décision de demander l'ordination dans un mouvement de femmes qui encourt l'excommunion ipso facto, donc latae sententiae, comme dit le droit canonique. Et donc j'ai adhéré au groupe des femmes RCWP, Roman Catholic Women Priests, dont le mouvement a démarré sur le Danube en 2002, et qui sont donc catholiques, romaines, mais que le Saint-Siège refuse de voir comme appartenant à sa famille.
Alors on a encore 3 petites minutes, je vais vous demander chacune ce que vous apportez à vos religions. Rabbin Fionchansky, qu'est-ce que vous apportez au judaïsme, par exemple? Qu'est-ce que votre regard, votre pratique apporte à votre religion?
Moi, je veux dire, ma façon personnelle de voir les choses au même titre que... Alors, oui, un grand tournant pour moi a été de rencontrer beaucoup de femmes rabbins, de telle sorte que j'ai pu réaliser que je n'étais pas un rabbin femme qui défendait la féminité du rabbinat,
ouais,
et que je défendais ce que moi j'étais. Donc c'est ça que je transmets au mieux.
Que vous apportez.
Et pratiquement, vous faites aussi des choses. Moi, la Hamida, j'ai découvert.
Je fais tout ce que fait un rabbin homme, évidemment, oui. Avec le
avec
consentement.
Avec quand même quelques variantes.
Absolu. Moi, ma variante à moi, c'est que chacun a vraiment sa place et qu'on est très détendu et qu'on parle vraiment du fond des choses.
Pasteur Emmanuel Sebot, qu'est-ce que vous apportez au protestantisme?
Mais je dirais la même chose que Floriane, en fait. La parole n'est pas complète s'il n'y a que les hommes qui la prennent. La parole, et quand je parle de parole, je parle aussi du message de la foi. Ce message-là, il est complet quand chacun prend la parole pour ce qu'il est lui. Et donc, pour que ça soit complet, il faut que les deux parlent, hommes et femmes.
Kaina Baloul, qu'est-ce que vous apportez à l'islam?
Moi, ce que j'essaye d'apporter à l'islam, c'est un regard critique, mais en même temps constructif. Critiquer ce qui ne va pas et essayer de construire à partir de ça pour vivre un islam qui soit adéquat au diapason de notre époque. Et je pense que ça donne beaucoup d'espoir à beaucoup de musulmans et de musulmanes.
Christina Moreira, qu'est-ce que vous apportez au catholicisme?
Moi, je serais bien tentée de répondre comme Floriane. J'apporte ce que je suis, ce que je vis. Et j'ajouterais que, en raison du fait que j'appartiens à un groupe exclu, j'apporte aussi cette expérience de l'exclusion et cette volonté de réconciliation, de rencontre, de dialogue de la part de Dieu.
Nadia, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, moi je trouve extraordinaire justement que des femmes puissent tout simplement dire qu'elles sont là, pas juste parce qu'elles sont des femmes et qu'elles contrecarrent quelque chose, mais qu'elles sont. C'est-à-dire elles sont ce qu'elles sont, des humaines avant tout, qui sont là pour partager, pour communier avec tout le reste de l'humanité. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est juste ce dont on a besoin. Et qui nous permet de vivre sereinement tous ensemble.
Merci à vous d'avoir été avec nous, mesdames. Vous revenez quand vous voulez. C'était un grand plaisir de parler avec vous. La semaine prochaine, vous savez que nous sommes dans le mois du carême et nous sommes à un mois du ramadan. Eh bien, nous parlerons du jeûne dans les religions. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Beurre FM, www.beurrefm.net. Le podcast sera disponible dans quelques instants. Merci d'avoir été avec nous. Très bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.